inquiète beaucoup, l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Sur magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways of a comedy of errors. You fellow with your fellows get played like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shrew. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice couldn't sell your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h02, c'est l'heure du Canu Info, et c'est mercredi, alors c'est l'heure du Canu Info du mercredi.
Waouh. Alors ce soir, de quoi on va parler?
On va parler de plein de trucs. Par exemple, moi je vais vous parler des centrales nucléaires toutes pourries. Celles qui vont craquer d'une seconde à l'autre.
Moi, je vais vous parler d'une campagne publicitaire toute pourrie des TCL.
Décidément. Moi, je vais vous parler de terroristes tout pourris.
Moi, je vais vous parler de politique de Bouteflika toute pourrie en Algérie.
Et puis après, moi, je vais arrêter avec les trucs tout pourris, parce que, ou même avant, parce que on va peut-être plutôt commencer par ça. Mais on va vite fait appeler à la manif de demain, hein, parce que quand même, il y a une grosse manif qui est prévue pour demain. Et puis aussi au rendez-vous de la semaine de solidarité Jamais sans toi, qui est cette semaine. Et donc, c'est des écoles qui se mobilisent à Lyon pour les élèves sans abri, élèves et leurs familles sans abri.
Cool.
Ah, c'est moi qui commence ?
Ouais, c'est toi qui commence, parce que je crois que j'ai pas de jingle.
Ah ouais, ok. Alors, à Lyon, le 12 et le 21 septembre, il y avait plus de 10 000 personnes dans la rue. Le 10 octobre, il y en avait plus de 12 000. La mobilisation contre la casse des services publics et du code du travail continue. Et le prochain rendez-vous, c'est demain, c'est à 10h30 et c'est à Jean Massé. Alors, on se posait la question tout à l'heure, il y a bien un préavis de grève pour tout le monde, y compris pour les salariés du public. Et donc, globalement, c'est une grève et une manif contre les fameuses ordonnances, la fameuse loi travail XXL, comme on l'appelle. Donc, tout le projet de Macron de filer tout le pouvoir au patron et pas vraiment de défense pour les salariés. Alors, on va résumer rapidement quelques grands traits de cette nouvelle loi travail. Elle permettra au patron de baisser les indemnités et le plafond de licenciement. Le patron pourra carrément budgétiser ses licenciements. Et pour la personne qui se fera virer, le délai pour contester le licenciement au prud'homme sera abaissé à 1 an. Ça permettra aussi de réduire les instances représentatives du personnel en les fusionnant en une seule entité. Moins d'élus, moins d'ordres de délégation et moins de moyens pour défendre les salariés. Ça permettra de faciliter les procédures de licenciement avec notamment la création de ruptures conventionnelles collectives qui permettront au patron de ne pas se faire chier à faire un plan de sauvegarde de l'emploi. Ça permettra de négocier des accords moins favorables aux salariés au niveau de l'entreprise. C'est ça qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que si le patron se met d'accord avec ses salariés pour faire un truc qui est bien moins bien pour les salariés que ce qui est la base légale normale, eh ben ça sera pas légal à condition que les salariés soient d'accord. Mais on voit bien ce que c'est le chantage dans des entreprises. Si jamais tu veux pas travailler pour 20% moins sur ton salaire, eh ben mon pauvre, c'est la porte. D'autant plus que maintenant ça va devenir très facile la porte. Si tu veux pas faire plus d'heures que les 35, eh ben écoute, tant pis, je crois qu'on va être obligé de licencier. Si tu veux pas réduire tes congés payés à 3 semaines dans l'année, je serais bien obligé de me débarrasser de quelques salariés, etc., etc. Donc, on peut se dire que les patrons risquent d'arriver assez massivement à faire signer des accords extrêmement pourris pour les salariés. Et enfin, autour des CDD, les CDD pourront être beaucoup plus longs et pourront être renouvelables autant de fois que possible. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un CDD. On ne peut pas déguiser un CDI en CDD de manière à pouvoir virer les gens quand on veut en ne le renouvelant pas. Là, on pourra vraiment faire des... Enfin, tout le monde risque petit à petit d'être employé en CDD, quoi. Voilà, donc demain, je répète, manif, 10h30, Jean Massé.
Et on va revenir à Lyon et hop, alors pardon parce que je jongle avec mon ordinateur et on va rester à Lyon, pardon, parce qu'on y était encore. Et voilà, et ben c'est un peu, c'est presque, ça pourrait devenir un marronnier pour le Canu Info, car comme après chaque année, les TCL sortent une nouvelle campagne de pub visant les fraudeurs. comme chaque année, la campagne est bien pire que l'année précédente, et bien sûr, comme chaque année, pleuvent de nouveaux dispositifs soi-disant anti-fraude. Je dis soi-disant parce que il y a un truc qui est sûr et qui bouge pas d'année en année, hein, qui voit qu'ils sont pires, c'est que les gens n'ont pas de pognon, hein, quand même, pour payer leur ticket de bus à des prix exorbitants. Bon, bah, cette année, c'est quand même un peu le pompon. Hein. Les années précédentes, seulement les pauvres étaient sanctionnés. Puis parce qu'ils ne payaient pas leur ticket, bah cette année là c'est même les coups de main qui sont sanctionnés, vous le verrez un tout petit peu plus tard, mais commençons par une petite description des nouvelles affiches, parce que je sais pas si elles sont apparues encore sur les...
Alors moi je les ai pas vues, mais je prends finalement pas tant que ça les TCL.
C'est ça, mais tu as traîné vers la part Dieu il me semble, hein, sans vouloir balancer ton itinéraire aujourd'hui, ce qui en général... est un bon indicateur. Et ben en tout cas, une photo en noir et blanc où se tient debout une personne tenant une pancarte des deux mains au niveau de torse avec écrit dessus son délit et la somme de l'amende. Derrière la personne a comme une espèce de graduation, vous voyez, la photo donc est en noir et blanc. Donc vous l'aurez compris, le tout imitant donc les photos des suspects de la police américaine. Vous voyez, la petite pancarte, le type, hop. La personne a les yeux bandés, hein, je pense, parce que les mannequins peut-être se sont dit qu'ils assumaient pas, après peut-être de se faire taper par les fraudeurs. Donc l'ambiance est posée, hein, la fraude est passée ces quelques années de l'infraction au délit, et là ça touche complètement à l'imaginaire du crime. Bon, pour finir en bas de l'image, hein, toujours un peu un slogan bidon, je me demande s'ils doivent avoir les mêmes agences de com avec la SNCF, là c'est fraudé, tôt ou tard ça se paye, voilà. Donc voilà pour le côté de l'affiche. Maintenant, niveau répression, donc ce que je disais tout à l'heure, on a franchi quand même un cap dorénavant. Alors attention, hein, écoutez bien, si vous retenez un portique du métro, vous voyez, c'est barrière automatique là, pour vous ou pour une autre personne, 150€ d'amende.
Waouh!
Ouais. Donc on sait pas s'il suffit juste au contrôleur un peu planqué vicieusement derrière un truc, s'il entend le bip bip, hop, ça suffit. On sait pas encore. Si sympa, vous avez laissé, là c'est quand même déjà avant c'était chaud, mais là c'est encore pire. Vous avez laissé votre ticket sur le composteur en quittant le métro ou à l'arrêt de bus, pratique quand même très très largement pratiquée par les usagers. Et en plus, pour quand même l'avoir constaté à nombreuses entreprises, pratiqué par vraiment à peu près tout le panel de classe sociale, de vraiment tout le monde confondu, se dit bon, comme ça peut arriver sur plein de trucs, mon ticket est encore valable, si des gens peuvent l'utiliser encore 10 minutes parce qu'il y a encore... Enfin voilà, c'était logique pour plein de gens. Voilà, cette pratique risque d'être sanctionnée de 150€ d'amende.
Pour avoir laissé ton ticket, voilà. C'est-à-dire que de toute façon, il y a aussi plein de gens qui peuvent éventuellement jeter leur ticket.
Alors peut-être qu'ils vont faire une différenciation entre si tu poses délicatement sur le truc et si tu le jettes en l'air et qu'on ne sait pas encore. On verra. Alors ça, nous dit le très réactionnaire site lionmag.com, c'est afin de lutter. Alors vous voyez, il y a des réseaux parallèles de revente de tickets de transport en commun.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, à la part du, ils avaient foutu des vigiles pour ça. Donc en fait, c'est des espèces de réseaux parallèles de revente.
Des mafias extrêmement puissantes de gens qui se font des millions en revendant des tickets.
Exactement. Bon, alors pour les gens qui avaient l'habitude de faire les poubelles, ça pouvait être un petit peu pénible parce qu'au lieu d'avoir un ticket gratos, t'étais obligé de le monnayer. Voilà, voire des fois, si tu disais, ah, j'ai l'habitude de faire les poubelles, tu peux me le filer, les gens le filaient. Bref, il s'agissait quand même de gens qui avaient pas du tout, mais alors pas du tout, du tout de pognon quand même. Et après ça, ils en avaient pas beaucoup plus. Donc, si avec tout ça, vous n'avez pas réussi à passer entre les mailles du filet, qui quand même se resserre de plus en plus, vous l'aurez constaté, et que vous vous êtes fait choper, et que vous déclarez malin, ou par erreur, ça peut arriver, une mauvaise identité, la peine maxi sera de 3 750 € et de 2 mois de prison. Bon, là, autant les 150 € d'amende, comme c'est vraiment juste contractuel, enfin verbalisé, bref, juste une amende, il y a quand même plus de... Il va falloir faire plus gaffe, en tout cas. Les 2 mois de prison, honnêtement, comme il faut quand même passer devant un juge, j'ose espérer qu'il n'y a pas un seul juge qui va s'imaginer filer 2 mois de prison parce que la personne a donné une mauvaise identité sur un compte. Bien que ça doit pouvoir dépendre de tout un tas de trucs. Bref, en tout cas, le délit est marqué et est là. Pour les personnes qui sont vraiment dans l'âge d'âge et donc qui fraudent régulièrement, la sanction peut aller jusqu'à 7 500 € d'amende et 6 mois de prison. Donc quand même, faut quand même préciser que tout ça a été permis grâce au gouvernement Hollande avec la loi Savary, qui était la loi sur les transports, qui a été pondue après l'attaque du Thalys, hein, vous savez, un fait divers, une loi, et qui, par un tour de passe-passe assez socialiste, a réussi à jumeler lutte antiterroriste et lutte contre les fraudeurs. Oui, on en avait parlé ici, ils avaient fait tout un tas de trucs où ils autorisaient la police ferroviaire à fouiller, parce que voilà, il y avait quand même de dangereux criminels qui se baladaient, hop hop hop, dans les trains et tout, machin. Mais aussi, quand même, fallait lutter contre les fraudeurs. Pourquoi? Parce que peut-être le passager du Thalys avait pas payé son ticket, on n'a jamais trop su. Dans cette loi, on retrouve également, par exemple, l'interdiction des mutuelles des fraudeurs, ainsi que le signalement des contrôleurs sur un trajet. Vous voyez, après tout, les... comme l'étau se resserre autour des fraudeurs, les gens tentent de s'organiser, on attaque aussi par ce biais-là, quoi. Bref, vous l'aurez compris, alors que la classe politique et une partie des médias a condamné une chasse au DRH dans les bois de Vincennes il y a quelques temps, où quelques voitures de luxe sont retournées à l'état de cendre, bref, la chasse aux pauvres est bien et bien là, et on entend quand même peu, mais alors très très peu, l'indignation médiatique faire son bruit.
Et bien, puisqu'on parle des pauvres, on va continuer à parler des pauvres et des plus pauvres et des encore plus pauvres à propos de cette semaine de solidarité qui est donc cette semaine au cours de laquelle 11 écoles sont mobilisées pour les élèves sans-abri. Le collectif Jamais sans toi, qui est une sorte de collectif à Lyon qui fédère tous les comités de soutien aux enfants dans les écoles, aux enfants scolarisés sans-abri sur la métropole lyonnaise, ce collectif tire la sonnette d'alarme au moment de la rentrée scolaire et quelques semaines avant le début du dispositif d'hébergement hivernal et aussi avant la célébration du 28e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'enfant. Le collectif recense déjà, donc sur la métropole lyonnaise, plus de 130 enfants sans hébergement. Alors ce chiffre, bien sûr, c'est que les enfants qui sont recensés par le collectif. Le collectif, c'est pas du tout une base de données fiable, et donc ça veut dire qu'il est forcément en dessous, et vraisemblablement bien en dessous de la réalité de la situation, puisque le collectif est présent juste sur une trentaine d'établissements scolaires, c'est-à-dire finalement relativement peu, je sais pas combien il y en a sur la métropole, mais c'est une petite partie, quoi.
Plus les gens qui peut-être n'ont pas trop envie de déclarer ce genre de truc,
c'est
par
ça,
peur
plus
de...
Plus les enfants qui vraisemblablement sont dans une de ces écoles et les parents le disent pas, quoi. Donc ces enfants et leurs familles, donc les 130 enfants dont on parle, plus les vraisemblablement plusieurs centaines d'autres enfants, connaissent la rue depuis des semaines, des fois depuis des mois. Ça veut dire qu'ils dorment, ça peut être dans la rue, ça peut être sous les ponts, ça peut être dans des bagnoles, ça peut être dans des cages d'escalier, des parcs publics, des squats qui, souvent, en réalité, pour les familles qui sont en squat, c'est pas les squats les plus... avec le plus de commodité. C'est vraiment plutôt les squats où il n'y a pas la flotte, où il n'y a pas les lecs, où on s'éclaire à la bougie. Des conditions de vie, nous dit le collectif Jamais Sans Toi, indignes et incompatibles avec le suivi d'une scolarité normale, effectivement. Dans l'indifférence totale des pouvoirs publics, alors qu'il existe au sein de la métropole lyonnaise, eux, ils comptent 24 000 logements vides. 24 000 logements vides, pendant ce temps, les gamins dorment dehors avec le reste de leur famille. Depuis plusieurs années, les établissements scolaires de l'agglomération, ça se passe à Lyon, à Oullins ou à Vaux-en-Velin, ont servi de refuge à ces enfants et à leurs familles. Donc certains établissements scolaires, quand il y avait des parents d'élèves qui se mobilisaient autour de l'histoire. Parfois, pendant plusieurs mois, ces occupations, en dépit des menaces d'évacuation par la force et des tentatives d'intimidation, venant généralement de la ville de Lyon ou de la métropole, ou... Ces occupations ont généré un véritable élan de solidarité auprès des parents, des enseignants, des habitants des quartiers, et ont permis l'hébergement de plusieurs centaines de personnes en mettant les autorités compétentes face à leurs responsabilités. Bon, cette semaine, donc de lundi dernier à ce vendredi, le collectif Jamais Sans Toi organise sa semaine de la solidarité. Donc repas, café, autres goûters solidaires permettront au comité de récolter des fonds qui financeront quelques nuits d'hôtel. Mais pour autant, et parce que ce qu'ils appellent la charité citoyenne ne peut pas non plus se subsister au principe de la solidarité républicaine, cette semaine sera surtout l'occasion de réaffirmer avec force le caractère inconditionnel du droit à l'hébergement d'urgence consacré par la loi, et de rappeler par la même occasion au président de la République le vœu qu'il formait au mois de juillet que, ouvrez les guillemets, donc ça c'est du Macron, d'ici la fin de l'année, il n'y ait plus personne dans les rues ou dans les bois. Voilà, donc la semaine est déjà bien avancée, mais on a quand même encore une petite série de rendez-vous. Alors demain matin, si vous avez envie d'aller vous faire un petit café à 8h du matin devant l'école Gilbert Dru, ça sera le moment de parler de trucs comme ça. Demain après-midi à 16h à l'école Youri Gagarine, c'est à Vaux-en-Velin. À l'école Jean Villard, c'est aussi à Vaux-en-Velin, c'est encore à 16h. École Jean Zay à Villeurbanne à partir de 15h45. Robert Doisneau, c'est dans le premier, à partir de 16h30. Michel Servet dans le premier à partir de 16h30. Jean-Pierre Verret, c'est tout ça, c'est des noms d'école. Et c'est aussi à partir de 16h30. Tout ça, c'est demain. Il y a encore un peu des rendez-vous vendredi. Vous trouverez facilement tout ça sur rebellion.info. Allez, on va parler un peu de nucléaire. On en parle toujours parce que, effectivement, pour l'instant, on est encore vivant. Peut-être que ça va durer. Peut-être que rien ne. Je veux dire, dans tout ce qu'on raconte, il n'y a rien où c'est sûr qu'on va crever à cause de ça. Mais disons que.
Les facteurs commencent à devenir multiples.
Des risques qui ne sont pas complètement négligeables. Et donc voilà. Nous avons un rapport de l'ASN. L'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire. Qui a été publié hier, et qui nous dit que qui date de lundi, et qui nous dit que sur les 58 réacteurs nucléaires en France, 29 sur 58, c'est exactement la moitié, ont des problèmes de corrosion au niveau de la tuyauterie de refroidissement des installations nucléaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les systèmes de pompage, donc sur la moitié des réacteurs, sont rouillés et ne permettent pas l'acheminement de l'eau froide en cas d'accident. Donc l'absence de garantie de tenue au séisme des tuyauteries situées dans la station de pompage de 29 réacteurs du parc en exploitation, c'est ça en fait, ça veut dire que comme ils sont rouillés, si jamais il y a un petit tremblement de terre, le moment où il peut y avoir des trucs graves et où il faut absolument refroidir, les tuyaux pètent. Donc l'eau, alors selon les endroits où sont les centrales, l'eau des fleuves ou de la mer n'arrivera pas jusqu'à l'endroit où il faut qu'elle refroidisse quelque chose. Le risque en cas d'accident est qu'il ne résiste pas et se rompe. Dans ce cas de figure, la station de pompage serait inondée et hors d'état de fonctionner. Le réacteur, entre autres, ne pourrait plus être refroidi. Ça, c'est le rapport de lundi. On se souvient que la semaine dernière, des militants de Greenpeace étaient rentrés dans une centrale nucléaire pour démontrer la faiblesse de la sécurité en cas d'attaque terroriste. C'est-à-dire que les militants de Greenpeace, bon, ils sont un peu balèzes et tout ça, mais on peut se dire que alors, par les temps qui courent, blabla, la guerre contre le terrorisme, on risque tous les jours de se faire tuer, etc., etc. Les centrales nucléaires, en fait, c'est facile de rentrer dedans pour des militants écolos. Donc, on se dit que pour n'importe quel militant de n'importe qui aurait envie de buter du monde, c'est pas très difficile non plus. Et donc, comme en plus, elles sont en carton pâte et en tuyauterie rouillée, c'est pas non plus très difficile de les faire péter. Et dans les petits accidents, parce que le nucléaire, enfin voilà, c'est. Mais par exemple, en mars 2016. À la centrale de Paluel, un générateur de vapeur, un truc qui faisait 500 tonnes, qui fait 500 tonnes, qui mesure 22 mètres d'eau, parce que finalement il est toujours tombé au milieu de la centrale, puisque c'est ça qui lui était arrivé, c'est qu'il avait basculé sur une dalle de béton du bâtiment réacteur. Coup de bol, l'incident s'était produit alors que les opérations de grand carénage avaient débuté à la centrale, donc tout ça a été arrêté. Mais en tout cas, depuis, la centrale a pas redémarré, c'est pas possible, le truc est cassé, quoi. C'est ça le nucléaire français. Et tout ça n'a pas empêché, et donc ça c'est aujourd'hui que c'est annoncé, l'ASN de donner son feu vert définitif, mais sous condition, à la cuve du réacteur EPR de Flamanville, malgré ses anomalies. Puisqu'on se souvient, on a déjà parlé ici plusieurs fois, que cette cuve de carbone, donc c'est un énorme machin, je ne me rappelle plus, mais pareil, c'est un truc qui pèse plusieurs centaines de tonnes, qui a été long et compliqué à fabriquer, qui a été fabriqué dans l'usine du Creusot Forge d'Areva. Et puis, au moment où ils l'ont sorti, où ils l'ont terminé, où ils l'ont livré, on a su par la suite qu'ils avaient falsifié des documents sur la manière dont ça avait été fabriqué, puisque l'acier qui constitue cette cuve est beaucoup trop riche en carbone. Et donc, beaucoup trop riche en carbone, ça le rend tout simplement fragile. Ça veut dire que par rapport à ce que devrait être la cuve, elle devrait pouvoir résister à un certain nombre de chocs, bah là, elle résistera beaucoup moins à des chocs. Donc selon ce qui se passe, hein, que ça soit un militant de Greenpeace qui vient de mettre une bombe, que ça soit un petit séisme ou que ça soit quelque chose comme ça, la cuve en gros elle va pas résister à grand chose. Mais comme elle a coûté très cher, comme de toute façon cette centrale nucléaire de Flamanville doit démarrer en 2012. Ah putain, 2012 c'est déjà passé, elle a pas vraiment démarré. 2013 non plus, 2014 non plus. Bref, pour l'instant elle est prévue fin 2018. Elle devait coûter 3 milliards d'euros. Là on en est à 10,5 milliards d'euros. Donc là, la SN a dit non, mais cette cuve, allez, laissez tomber, vous avez qu'à la mettre quand même. Et puis, nous, on n'habite pas dans le Nord. C'est toujours ça de prix. Mais après, c'est quand même très très gros, le PR de Flamanville. Je pense que le nuage radioactif qui va en sortir va être balèze et je ne sais pas si on sera assez éloigné pour être à peu près tranquille. Alors quand même, il y a des conditions, et donc l'ASN exige que le couvercle de la cuve, alors le couvercle de la cuve pour le coup, parce qu'il y a une cuve et un couvercle, vous imaginez, c'est une grosse marmite avec un gros couvercle. Donc ils ont dit, la marmite c'est bon, et le couvercle, écoutez, pour l'instant mettez celui-là, mais franchement, faites-le remplacer avant fin 2024.
Bon, du coup 2024, 2025, 2026, 2027.
J'allais un peu évoquer ça. Pour l'instant ils ont dit fin 2024. Et puis ils ont réitéré leur demande, hein, on parle bien de demande, de contrôle en service régulier. C'est-à-dire que qu'il faudra que des gens d'EDF aillent des fois se balader un peu dans la centrale et regardent un peu pour dire ouais, cela, ça a toujours l'air de tenir. Pour l'instant, il y a rien de
un petit coup de ciment là pour boucher les fissures au cas où.
C'est ça, c'est à peu près de ça qu'on parle.
Ah bah voilà, c'est que j'appuie, pardon. Eh ben, nous allons faire un tour du côté de l'Algérie. Et il semblerait que l'Algérie soit elle aussi frappée par des politiques plus que xénophobes. On en avait parlé il y a quelques semaines. Et là, c'était l'Algérie et le Maroc qui étaient concernés et qui jouaient à une espèce de ping-pong un peu immonde avec des migrants qui laissaient croupir dans l'espèce de no man's land qui se situe entre les deux pays, chacun rejetant bien sûr la responsabilité sur l'autre. Voilà, donc en gros la situation c'était, j'en parle au passé, je suis pas du tout sûr que ce soit fini. Voilà, le Maroc qui expulsait dans ce No Man's Land, et après les gens ne pouvaient plus revenir au Maroc. Ah ben non, vous avez pas de papier, voilà. Et après les gens ils allaient toquer du côté de l'Algérie en disant ah, on s'est fait foutre dehors, et les Algériens qui font ah mais on va pas vous accueillir, et l'Algérie qui faisait pareil de son côté. Bref, là la situation est purement algéro-algérienne, puisque le gouvernement de Bouteflika se livre à une véritable chasse aux migrants. Des centaines de migrants ouest-africains se sont fait arrêter, principalement à Alger, et avec comme principal motif qu'ils sont noirs. Ils sont d'abord conduits dans des centres de rétention, ou par exemple au camp de Zeralda, qui est une station balnéaire proche de la capitale. Un espèce de centre de rétention qui d'habitude l'été est un complexe touristique qui sert à accueillir donc les touristes comme son nom l'indique, mais qui sert aussi ponctuellement à l'État comme centre de rétention le reste du temps. Puis les migrants sont ensuite envoyés en bus vers Tamanrasset pour être ensuite expulsés vers le Niger la plupart du temps, bien sûr que les personnes soient nigériennes ou pas, entre parenthèses, depuis 2014, en vertu d'un accord entre Alger et Niamey, plus de 180 000 migrants nigériens clandestins en Algérie ont été renvoyés au Niger. Donc voilà, c'est les mêmes principes que les accords que passe la France avec tout un tas de pays. En gros, c'est des accords, c'est souvent des histoires de gros sous ou d'accords un peu d'échanges, machin, sous couvert de t'accueil. Tu t'acceptes les ressentissants qu'on te file et tu regardes pas trop près si vraiment ils sont nigériens ou pas, et après t'en fais ce que tu veux, de toute façon on s'en fout. Voilà, en décembre 2016, la Ligue algérienne des droits de l'homme parle de plus de 1400 étrangers arrêtés, que dans la capitale règne une véritable ambiance de rafle. Les gens se font arrêter chez eux, dans la rue, sur leur lieu de travail. Plusieurs vidéos, donc là c'est des vidéos plus actuelles, mais en tout cas témoignent du fait que ça continue. On y voit des personnes en tenue de travail dans des bus ou avec seulement quelques affaires, ou dans ce fameux centre à Zeralda. Voilà, de toutes de nationalités différentes. On voit une vidéo où les gens sont en train, dans un bus, sont en train d'être amenés donc à Tamanrasset. Voilà, une petite dédicace au passage avec la palme des collabos qui revient au Croissant Rouge, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge en France, où la présidente a fait une belle déclaration qui lui a certainement été envoyée par Bouteflika lui-même, enfin en tout cas sûrement par un de ses conseillers vu l'état dans lequel il doit être, communiqué donc, où elle déclare simplement dans les colonnes du journal officiel, pour éviter un truc de contradiction, on sait jamais, que ces arrestations sont faites, je cite, au vu de la promiscuité qu'il y a dans la capitale, promiscuité qui amène des problèmes sécuritaires, et pour qui les pouvoirs publics ont simplement, je cite, transféré les migrants dans le sud où les conditions d'accueil sont meilleures. Voilà, donc ça, il suffisait juste de penser que ce n'est pas tout à fait des rafles, mais plus de la déportation au sud du pays. Mais le schéma, en tout cas, est toujours le même à l'heure actuelle. Le SNAPAP, qui est un syndicat de travailleurs algériens, est également monté au créneau pour dénoncer cette situation. Il atteste que des personnes également réfugiées sous mandat, lui parle de mandat HCR, mais j'imagine que c'est des gens qui ont un droit d'asile.
Statut de réfugié politique, ouais.
Sont également expulsés, ce qui est complètement interdit par les conventions de je sais plus quoi là, mais des conventions internationales. Et donc il semblerait que la police algérienne ne fasse pas trop de différence. En tout cas, à l'air de si t'es noir, principalement à Alger, mais j'imagine ça va peut-être aussi se passer ailleurs. On te met dans des puces, dans des camps, le Ah oui, voilà, donc le chef de la diplomatie algérienne avait accusé hein, quand même du coup ces migrants ouest-africains d'être une menace pour la sécurité nationale. Donc quand même, on voit à peu près les similitudes, hein, vous voyez, avec ce qui se passe en France. Par exemple, pour vous faire un petit topo de l'ambiance, là, pour finir, le ministère des Transports a fait polémique en interdisant aux compagnies de bus et des taxis de transporter des personnes en situation irrégulière. Bon, cette mesure qui avait fait scandale avait, disons, dû finalement faire marche arrière, mais on voyait de mal comment ça aurait pu être mis en place, à part de manière purement discriminante sur la couleur de peau. Bref, voilà, c'était un petit aperçu des politiques
migratoires
en Algérie.
Tout pays ami de la France.
C'est ça, exactement. Et s'il y a eu, il y avait un journaliste là dans un journal dont je ne sais plus, un journal algérien, qui disait. Que la situation économique en Algérie était catastrophique, que l'État hésitait à faire tourner la planche à billets, que le chômage augmentait. Enfin, tout ça, lui, il décrivait c'est un peu ça dans un truc de dire bon bah voilà, on n'a qu'à dire que tout ça serait la faute aux immigrés et on s'en porterait bien mieux.
Hier, les services antiterroristes français ont interpellé 10 militants d'extrême droite. Alors, ces 10 personnes étaient en lien avec un autre FAF qui, lui, avait été arrêté fin juin et soupçonné d'avoir projeté des attentats contre, alors il avait l'intention de viser des hommes politiques, des mosquées, des migrants. C'était relativement vague, mais c'était prometteur. Donc ce gars qui s'appelle Logan Alexandre Nizin, il est tout jeune, il a 21 ans, et il avait auparavant été militant à l'Action Française Provence. Alors l'Action Française, on peut se dire que ça fait un petit peu rigoler, puisque c'est une organisation royaliste du XXe siècle, hein, du tout début du XXe siècle. Bon, ça a l'air pas hyper sérieux comme ça, mais finalement l'Action Française Provence, a quand même ces derniers mois été relativement efficace pour faire chier à Marseille et à Aix. Alors il y a eu ça a été des bastons avec des militants de gauche dans le centre-ville de Marseille. Ça a été au moins une baston devant un lycée, alors qu'ils étaient venus distribuer des tracts, mais il y a un lycéen qui est reparti blessé. Ils ont ouvert un local, ils ont attaqué des réunions publiques, en particulier d'hommes politiques marseillais. Enfin voilà quoi, l'Action Française, ils se sont montrés. Mais visiblement, ça suffisait pas à ce Logan Nizin, puisqu'il s'est barré de l'Action Française. Et que l'Action Française aujourd'hui dit on ne sait pas ce qu'il a fait depuis. Donc donc lui a été arrêté le 28 juin 2017 à Vitrolles où il habitait. Donc Vitrolles, c'est aussi à côté de Marseille. Il a été mis en examen début juillet et placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les investigations ont mis en lumière un projet d'action violente aux contours imprécis. Alors ça parlait de lieux de culte, donc mosquées, ça parlait d'hommes politiques, migrants, trafiquants de stupéfiants. Sur Facebook, il avait aussi un compte, et en fait c'est même pour ça qu'il s'est fait choper au départ, où il parlait aussi d'attaquer des migrants, des mosquées, des hommes politiques, en particulier Mélenchon ou Castaner, qui est le porte-parole du gouvernement. L'affaire avait d'abord été traitée par le parquet d'Aix-en-Provence et la gendarmerie de Marseille, et puis elle avait quand même été convoquée à la sous-direction antiterroriste, la fameuse STAT. Des ordinateurs ont été saisis chez lui et les flics ont trouvé dans ses ordinateurs une affiche qui était en cours de réalisation, mais sur laquelle le slogan c'était quand même « Rebeu, black, dealer, migrant, racaille, djihadiste, si toi aussi tu rêves de tous les tuer, nous en avons fait le vœu, rejoins-nous. Hein » Alors, en fait, si toi aussi tu rêves de tuer rebeux, black, dealer, migrant, racaille, djihadiste.
Ah, moi je pensais qu'ils s'adressaient à eux pour que les tuer tous Mélenchon et Castaner.
C'est ça, c'est que visiblement c'était pas un as de la formule.
Ouais. Ça avait pas l'air d'être un as.
Ça avait pas l'air d'être un as de quoi que ce soit. D'autant plus qu'il s'est quand même fait choper au départ parce qu'il avait créé une page Facebook à la gloire de Anders Breivik. Vous voyez qui c'est Anders Breivik ?
Oui, qui avait fait tuer plein.
Alors, si jamais vous ne voyez pas, c'est ce Norvégien qui avait buté 70 personnes, 77 personnes en Norvège. C'était, je ne me rappelle plus, il y a quelques années. Alors, en réalité, ces gens étaient là à un congrès des jeunes socialistes, mais il les avait. Donc, lui, il était venu avec un flingue, il avait tiré dans le tas, comme aux États-Unis. Mais il l'avait fait surtout pour défendre son pays contre l'invasion musulmane, quoi. Ce gars-là est en prison. Et donc, ce Logan Nisin, lui, avait fait une page Facebook en soutien à Anders Breivik. Les flics ont retrouvé aussi chez Nisin, ont retrouvé un fusil à pompe avec lequel il s'était mis en scène sur Facebook, deux revolvers, un gilet pare-balles, et on a su aussi qu'il cherchait à se procurer des faux papiers et à fabriquer un lance-flammes. Donc.
Avancé quand même.
Hein ?
Le type était un peu avancé quand même.
Il était un petit peu avancé. Ouais. Mais en même temps, il était avancé. Il n'avait pas l'air d'être avancé dans la précision de ce qu'il allait faire. Mais bon, il comptait buter du monde. Et donc, hier, les flics ont arrêté 10 de ses potes. Alors, je me demande si c'est pas 9 de ses potes et sa mère. Pour l'instant, les enquêteurs cherchent à savoir dans quelle mesure ces 10 personnes étaient mouillées dans les projets d'attentat de Nisin. Chez au moins une de ces personnes, les flics ont retrouvé des armes. Et alors. Citation d'une source policière dans 20 minutes. Certains avaient une idéologie un peu inquiétante. On imagine les flics qui découvrent tout ça, qui découvrent des nazis qui vont buter du monde, tout ça, et qui disent peut-être que là c'est légèrement exagéré.
Là, au début ils disent ouais, bon, ça va, ça vous fera pas, ça bon,
d'accord, là, on okay. est d'accord. Ah, ça s'en tombe sous le coup de la loi qu'on est censé défendre, mais c'est vrai que c'est sympa. Et puis, ouais, à des moments. Une idéologie un peu inquiétante. Alors, bien sûr, c'est les mêmes flics qui font des descentes chez des djihadistes et qui, à ce moment-là, ne parlent pas d'une idéologie un peu inquiétante, mais parlent vrai. Enfin, ils ont, c'est pas du tout le même vocabulaire, quoi. Bon, alors, quand même. Juste, il y a quelques temps déjà qu'on avait un peu tendance à se dire que on aimerait bien que les terroristes soient pas toujours des musulmans, parce que ça pousse à ce truc d'assimiler les musulmans au terrorisme, blablabla, blablabla. Et puis finalement, maintenant qu'on a des terroristes fachos, on n'est pas plus content. Parce que de toute façon, plus les flics trouvent que le terrorisme peut venir de n'importe où, et plus en réalité, nous aussi, on va se faire emmerder.
Je sais pas si tu en parlais, la une du Parisien.
Ah non, vas-y.
Ah non, en tout cas la une du Parisien aujourd'hui, donc concernant quand même suite à cette affaire dont tu es en train de parler là, c'était quand même on peut lire, c'est enquête sur les militants de la violence, et on y voit du coup une photo de manifs avec des gens qui sont sous des gaz lacrymogènes, du coup manif soit de la loi travail, soit avant cet été, soit maintenant, la fameuse voiture de flic qui est en train de cramer, et un sous-titre je sais pas exactement, mais voilà, qui mêle militants d'extrême gauche, militants d'extrême droite, terroristes d'extrême gauche, terroristes d'extrême droite, et sauf que donc là l'actualité parle bien de terroristes, enfin de
gens qui sont arrêtés pour un projet terroriste qui, voilà, est pas hyper finalisé, mais qui est quand même vraiment typiquement un projet terroriste.
C'est ça, d'extrême droite. Et donc, le Parisien fait sa double page donc là-dessus, sur les militants et la violence. Et on peut même dire qu'au niveau de la proportion, cette double page est occupée à 90%.
Disons qu'il y a une page et 9 dixièmes de l'autre qui sont sur nous et nos amis.
Exactement, et un tout petit encadré sur les militants d'extrême droite. Alors, bon, c'est vrai que... On n'aurait qu'à pas leur accorder beaucoup de place, c'est vrai. Ça peut être un choix, mais je doute que ce soit le choix du Parisien, quand même.
Voilà. En tout cas, les 10 personnes qui ont été arrêtées hier vont rester en garde à vue. Ça peut durer jusqu'à 96 heures.
Alors, attends, parce que par contre, comme j'étais sur la une du Parisien, hop, la musique n'était pas tout. Elle arrive. Eh ben, il est 19h39. Ça y est. Et on a fini ce Canu Info. Le temps de vous laisser avec 20 minutes de bande continue. Le temps de retrouver, oui, Idées Noires, qui sont derrière les vitres. L'émission de la coordination des groupes anarchistes. À 20h, tapante.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée.
Bonne soirée.